là-bas, tu vois, ces terriers-là. Là, en hiver, ils sont tout le temps là, en fait. Donc, un truc qui est pas mal dans les plans d'eau comme ça de castors, c'est que voilà, la surface est lisse. Du coup, on peut lire les baguelettes. Et parfois, ils sont dans leur terrier à l'entrée. Mais par les petites ondes qui sortent les baguelettes, on peut savoir s'ils sont là ou pas, s'ils sont en train de manger ou pas. Mais ça, c'est avec le temps, on regarde et on sait si c'est juste un petit insecte qui l'a fait ou c'est lui qui est en train de manger. Donc, c'est la lecture d'un nom comme ça. Des vaguelettes, c'est pas mal. Donc là, on sait qu'il n'est pas là, par exemple. Ils sont, je pense, à l'intérieur. Là, on lève le niveau. Voilà, déjà pas mal, quoi. Pas plus de 70 cm, un truc comme ça. Et tu vois, il a des gros cailloux, quand même. Il a déjà eu je pense qu'ils ont commencé à construire quand il a eu de la crue, qu'il a dégagé, du coup ils ont reconstruit. Il ne se laisse pas abattre. Et dès qu'on marche, tu vois, il a tous les sédiments qui s'élèvent. Bah, ça montre qu'il a beaucoup de dépôts. Et là-bas, on voit aussi ces petites boules là-bas. C'est des crottes. Tout ça en fait, tu vois. C'est de la cellulose pure, rien d'autre. C'est que tu bois des feuilles. Ça sent pas très mauvais, tu vois. Du coup, je vais l'installer là, parce que là, j'ai une super perspective de tout.
Là, mon objectif, c'était de filmer vraiment leur comportement de construction. Donc, vraiment comprendre leur technique, voilà, comment ils arrivent à soulever. Déjà, le processus, sur un ouvrage, ils commencent comment? Donc, la rivière est à nu, qu'est-ce qu'ils font d'abord? Donc, ils vont aller chercher les bois, mais quel type de bois? Donc, par exemple, ils ne mangent jamais, bon, jamais. Parfois, je les vois quand même avec des résineux, mais en général, c'est que des feuillus. Mais quand on commence à voir qu'il commence à couper du résineux, on dit « Ah, là, il a peut-être un ouvrage qui se prépare, en fait. » Ils aiment bien ce genre de bois pour la construction. Donc, comprendre vraiment tous les processus des constructions, qui construit, est-ce que le petit aussi, il participe. Voilà, juste pouvoir voir ça. Mais ça, en général, ça se passe la nuit. En gros, quand ils sortent, ils ont la dalle. Ils vont d'abord manger, ils passent vraiment des heures à manger. Donc j'ai des heures et des heures, de films de castors qui rongent des troncs d'arbres. Donc voilà, mais il y a toujours des trucs sympas. Hein. C'est juste super agréable, de toute façon, de passer des heures juste à la tombée du jour dans la rivière. L'ambiance sonore, c'est déjà génial. Et voilà, il y a plein d'animaux qu'on voit à côté aussi. Donc il a un côté juste... Tu es obligé à te poser, faire rien d'autre, observer, filmer, et voilà. Et c'est agréable aussi le fait que quand ils t'acceptent, ils savent que tu es là, ils s'en fichent un peu, entre guillemets, ils font leur vie, parfois ils passent juste à côté, ils te regardent, ils continuent. Il faut y aller vraiment tout doux, toujours garder la distance, et que ce soit eux qui s'approchent, s'ils veulent s'approcher, ils ne vont pas s'approcher de moi pour s'approcher, mais c'est juste que je suis dans leur passage et ils s'en fichent en fait, donc c'est ça qui est bien, c'est quand ils s'en fichent de toi et ils font leur vie. Et, donc ils ne modifient pas leur comportement parce que tu es là, et ça c'est toujours, c'est le but ultime quoi, de toute personne qui filme l'animalier, c'est sûr.
Bah en gros, il faut se dire qu'il en avait partout en Europe, vraiment des millions de castors. C'était eux qui dessinaient le paysage de la rivière. Et ça n'avait rien à voir avec les rivières d'aujourd'hui.
En gros, la théorie dit qu'ici en Europe, quand on a commencé à les tuer, et surtout pour la fourrure, un peu la viande aussi, il n'y a vraiment que les plus discrets qui ont réussi à survivre. C'est qu'ils ne faisaient pas des traces, des gros barrages, vraiment les plus discrets, quoi, qui trouvaient les endroits qui allaient déjà bien sans devoir les modifier.
Et du coup, bah, la théorie dit que cette gêne de la discrétion, ça s'est perpétué. Et qu'aujourd'hui, vu qu'on les a laissés tranquilles et depuis un moment, bah, le comportement des constructions commence à se réveiller. C'est comme tout le monde, s'ils n'ont pas besoin de construire, ils ne vont pas construire. Ça demande beaucoup d'énergie, de temps, d'efforts. Ils doivent être plusieurs, une coordination et tout. Donc s'ils n'ont pas besoin, ils ne construisent pas. C'est-à-dire s'ils ont déjà assez d'eau dans la rivière et un refuge. Ouais, ce n'est pas partout qu'ils vont construire. Mais ici, dans cette rivière, par exemple, bah, les étés, il n'y a pas assez de profondeur. Donc ils sont un peu obligés s'ils veulent vivre là. Là, c'est des lignes comme ça. Mais en fait, c'est la queue ou carrément aussi parfois les branches. Là, comme c'est large comme ça. En vrai, c'est qu'il a transporté un maxi-tronc. Parfois, on voit qu'il galère à tirer. Il s'arrête, il respire, il retire. Donc là, tu vois clairement la largeur de la branche, quoi. Bon, de toutes les petites branches à côté. Et là, on voit une coulée. Donc c'est clairement l'endroit des passages. Donc il a utilisé cet endroit-là pour aller chercher du bois un peu plus loin. Donc encore, on pense, hein, avec la même optique, de ne pas se réexploiter au même endroit, mais d'aller tailler un peu partout. Et hop, ramener par ici. Là, on voit. C'est pas vraiment un barrage, c'est un ouvrage qui ralentit la rivière. C'est des petits détails, mais il n'est pas perpendiculaire complètement à la rivière. Il a toujours un angle. Donc on voit, on entend l'eau qui coule, en vrai. Donc l'eau, elle passe quand même. Et c'est juste qu'elle elle est ralentie énormément. Donc on ne va plus avoir cette action vraiment de drainage et de transport des sédiments, du fait que l'eau, quand elle va vite, bah forcément, elle attrape des sédiments des verges et elle fait qu'il les enlève. Bah à l'inverse, là, on va vraiment passer une optique de ralentir sédimentation. Du coup, ils vont remonter les niveaux d'eau. Finalement, toute cette eau, elle va aller plutôt vers l'horizontale, plutôt que vers la descente. Il va aller sur les côtés. Elle va aller inonder parfois donc les côtés de la rivière. Et après, c'est surtout le fait qu'elle va recharger la nappe phréatique d'accompagnement. Donc en fait, quand on voit une rivière, on voit les traits bleus. En fait, ça, c'est une partie de la rivière. En fait, la grosse partie, on ne la voit pas. Elle est vraiment sous la terre. Et c'est cette partie, en fait, que quand on déconnecte le fil d'eau qu'on voit de la nappe phréatique qui l'accompagne, parce qu'on fait que la rivière elle soit vraiment plus bas que cette nappe phréatique, c'est-à-dire qu'elle s'est incisée. On voit aujourd'hui les berges sur les côtés, en fait, elles sont très incisées. Et la rivière, elle est tout au fond, même quand on parle avec les agriculteurs, ils nous disent avant la rivière, elle était beaucoup plus haute. Bah, cette action vraiment de drainage et d'érosion a fait que la rivière descende. Du coup, elle est plus connectée à cette nappe phréatique d'accompagnement. Et en fait, cette nappe, elle ne se recharge plus d'eau. Et l'action de cette nappe, en fait, c'est surtout de restituer de l'eau lors des étiages, par exemple, quand il n'a plus d'eau de surface. On voit parfois, dans les endroits où il y a encore de l'eau sur la nappe phréatique, on voit vraiment que l'eau coule sur tous les côtés. Et en fait, c'est la terre qui restitue de l'eau à la rivière quand la rivière n'en a plus. Donc vraiment, l'un va passer à l'autre. Et le castor, de par son action, il a cette capacité de reconnecter avec le temps, hein, et de reconnecter la rivière à la nappe d'accompagnement. Donc du coup, en gros, de réhydrater le sol. C'est clairement ça. Le fait de faire des affûts, c'est sûr, ça change le regard vers la rivière, parce qu'on passe des heures, on observe, on est obligé à observer en fait. Donc voilà, on s'est approprié petit à petit. C'était un milieu qui n'était pas le mien. Et à force de passer du temps, je commence à le comprendre. Et du coup, je me sens plus proche, quoi, finalement. J'ai grandi en Espagne et au bord de l'eau en fait. Donc pour moi, c'était la mer qui comptait, quoi. C'était tout ce qui m'intéressait. Donc c'est pour ça que j'étudiais biologie marine. Et j'ai commencé après à travailler plus sur la recherche, plus fondamentale. Et j'ai eu cette porte vers raconter des récits aussi, que je trouve intéressante de faire parler un peu les écosystèmes, les êtres vivants. Voilà, j'ose raconter des histoires pour que ça devienne peut-être plus dans les quotidiens des personnes, quoi, qui peut-être n'ont pas
cette envie d'aller voir ou peut-être pas la possibilité ou voilà, juste essayer de participer à la culture du vivant.